Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici à l'Odyssée du Cirque. Je vais passer la parole tout de suite à la personne qui a la gentillesse de nous accueillir aujourd'hui dans ces lieux à l'Odyssée du Cirque. Donc Cédric Evin, qui est le président de l'Odyssée du Cirque.
Eh bien, merci, bonjour, bienvenue déjà ici sous nos chapiteaux, le chapiteau de l'Odyssée du Cirque, ben ici à Héricourt et en Haute-Saône. Moi, je suis ravi de vous accueillir dans ce lieu un peu atypique, et je crois d'ailleurs c'est ce que vous recherchez quand on a discuté un petit peu pour cette intervention dans un lieu assez atypique. Je pense que vous serez comblés. Ici, c'est un lieu de création, un lieu artistique, et vous aurez l'occasion, un petit peu plus tard dans la journée, je crois, de découvrir nos élèves et ce qu'ils apprennent un peu toute l'année et ce qu'ils pourront vous montrer ici, sous nos chapiteaux. Moi, un tout petit mot sur notre association pour démarrer, parce que notre association, l'Odyssée du Cirque, existe depuis 1987. Elle est née dans le territoire de Belfort, juste à côté, sur Ropes, Bavilliers, où elle était implantée jusqu'aux années 2009. Malheureusement, dans les années 2010-2012, on a eu quelques petits soucis de localisation, on a dû bouger, changer de lieu, etc., etc. On a commencé une petite période d'errance dans le territoire de Belfort, qui s'est terminée en 2019, où nous avons été accueillis ici, alors en Haute-Saône, à Héricourt, à Échenon-Saumont-Vaudois. Sur ce terrain-là, ce terrain qui nous a été mis à d'autres dispositions par la communauté de communes du pays d'Héricourt. Je voulais te dire, parce qu'on est maintenant ici accueillis dans des très très bonnes conditions, on a un terrain qui est très très grand, un espace qui est très agréable. Vous l'avez peut-être vu en arrivant, on a un bâtiment qui est en cours de création et en cours de construction, pardon, au fond de notre zone ici, et qui est notre futur centre régional des arts du Sirte. Un centre donc qui aura un rayonnement régional et qui ouvrira normalement en septembre prochain. Ce centre, cette implantation et ce chapiteau, c'est grâce à l'accueil que nous avons reçu de la communauté de communes du pays d'Héricourt ici, de son président Fernand Burkhalter et de son vice-président qui prendra la parole dans un instant, Luc Boulet. Cette implantation pour nous, c'était très très précieux parce que ça nous a permis de revivre, alors surtout qu'on a subi juste après notre installation ici le Covid, donc on a eu un petit peu de mal à se remettre sur nos pieds. Et on a pu redémarrer notre activité ici sur le pays d'Héricourt. C'est précieux, alors vous verrez, et puis moi j'interviendrai cet après-midi sur un petit échange et une table ronde sur les petites difficultés d'une implantation un peu plus rurale que notre implantation précédente dans le territoire de Belfort. Mais malgré tout, ici, on est très bien et très bien accueillis. Et je souligne une dernière fois, mais c'est vrai que c'est grâce à l'action politique, à la conviction des élus, que l'on a pu être accueilli dans de si bonnes conditions ici sur le territoire et donc vous allez, enfin, sur le pays d'Héricourt et vous accueillir maintenant pour cette journée. Moi, je vous souhaite ici une très bonne journée et puis on aura l'occasion peut-être d'échanger dans la journée et de se revoir de toute façon tout à l'heure pour la table ronde, la deuxième table ronde. Merci et bonne journée, bon travail.
Merci Cédric. Je vais passer la parole maintenant à Luc Boulet, qui est le vice-président de la communauté de communes du pays d'Héricourt, donc la zone sur laquelle on est, en charge de la culture.
Oui, merci. Bienvenue à l'Odyssée du Cirque, hein, Cédric l'a déjà rappelé, et bienvenue dans la communauté de communes du pays d'Héricourt. Je crois que vous allez parler durant cette journée de comment les alternatives culturelles peuvent être un levier d'accélération des ICC en milieu rural. Ben, la communauté de communes, est bizarrement, on va dire qu'elle est rurale puisqu'elle est composée de 23 villages, elle a 20 000 habitants, mais elle est tellement proche de Belfort et de Montbéliard qu'elle est un peu urbaine aussi. Hein, c'est une communauté semi-rurale, on va dire. La CCPH a la volonté, la communauté de communes, hein, je dirais de temps en temps CCPH, mais c'est la communauté de communes, a la volonté d'être le troisième pôle de l'aire urbaine, après Belfort-Montbéliard. Et au point de vue culture, on mène de grandes initiatives. Alors, je vais vous parler en premier de la médiathèque. On a une médiathèque intercommunale depuis 2008. Bien entendu, on emprunte des livres à la médiathèque, mais elle a aussi de nombreuses activités. Une ludothèque avec des jeux, un Fab Lab qu'on appelle Herilab, venant d'Héricourt, une Artothèque où on prête des œuvres d'art, une Microfolie, vous savez, c'est le musée du Louvre maintenant qui se développe. On était les premiers à la communauté commune à l'avoir. Des jeux vidéo. On organise des soirées-jeux. Elle propose deux moments forts dans l'année. Le premier, c'est Enlivrez-vous avec une vente de livres et rencontre d'auteurs. Et la deuxième journée, c'est Enjouez-vous. Enjouez-vous, c'est une journée à la Cavalerie, la grande salle d'Héricourt, où vous pouvez jouer toute la journée avec de nombreux jeux. Puis en collaboration avec la DRAC, on a signé deux contrats de développement culturel. Le premier sur 3 ans Le premier, c'était autour du théâtre. Et celui qui commence cette année, sur 3 ans, ça va être le cirque, puisqu'on est dans le cirque, et la musique. Cette médiathèque en travaux de rénovation énergétique, un coût 1 700 000, qui devrait se terminer, pareil, en juin. La deuxième grosse entité culturelle du Pays d'Héricourt, c'est l'école de musique. Bien entendu, c'est une école de musique traditionnelle où on donne des cours de musique, mais aussi, elle a 3 chorales. Choréa, c'est une chorale de jeunes qui monte une comédie musicale chaque année. Les Burlesques, c'est une comédie de chanteurs, danseurs, avec des chansons un peu burlesques, comme ça s'appelle. Et la dernière, c'est la Crazy Monday, c'est une chorale de jazz. Chaque année, on a droit au mois de mai au festival Lily Baron. Ces 3 chorales font pendant 3 week-ends des spectacles. Bon, cette année, notre chef est un peu malade, ce sera repoussé sûrement à l'automne. Et la troisième, bien entendu, maintenant, c'est l'Odyssée du cirque, hein, qui n'avait pu trouver sa place dans le territoire de Belfort, comme l'a dit Cédric, et que la Comcom a été contente et a tout fait pour les installer ici. Aujourd'hui, grâce à la construction du CRAC, vous avez vu ce bâtiment. Hein, c'est vrai que pour l'Odyssée, ça va être ici, il faut chauffer les chapiteaux, c'est froid, etc. Là, ils vont faire des économies d'énergie impressionnantes. Hein, pour leur association, c'est idéal. Bon, je citerai encore des ateliers théâtre, la chorale du collège, les concerts d'harmonie, le carnaval vénitien, les expositions au musée Minal. Donc, vous voyez, ta commune fait beaucoup pour la Cuche du Houx. Et je suis un vice-président, on va dire, heureux, parce que tous les week-ends, je suis chargé aussi du sport, culture et sport. Et je peux vous dire que tous les week-ends, il se passe quelque chose sur Héricourt. Je suis ici aujourd'hui. Demain, je suis au gymnase. Il y a un grand tournoi de tir à l'arc régional. Hein, donc, je serai là-bas aussi. Donc, je vous souhaite à tous une journée riche en recherches, rencontres et discussions. Bonne journée à tous.
Merci beaucoup, Luc, pour cette remise aussi dans le contexte géographique dans lequel on est. Je vais passer la parole maintenant à Sol Vexer et Luc Robben, qui sont les responsables du programme de recherche ICAR et du projet DEDAL qui vous invite aujourd'hui pour nous présenter tout ça.
Alors, bonjour tout le monde, on est extrêmement heureux d'être là aujourd'hui dans le fief de Mathilde, on va dire. Alors moi, je vais me présenter, puis je vais vous présenter pendant 5 minutes le programme dans lequel on est. Donc, on est dans un programme où il y a un projet qui est porté par Luc, mais c'est un programme beaucoup plus vaste, histoire que vous compreniez bien les enjeux. Donc, moi, je suis Sol Vexer, je suis directrice de recherche au CNRS. Dans ma vie de chercheur, je suis historienne et musicologue. Je travaille avec Luc depuis 12 ans sur les contre-cultures, particulièrement sur la scène punk en France. Et depuis 3 ans, je porte au nom du CNRS ce programme de recherche qui s'appelle ICAR. Toutes les belles histoires commencent par « Il était une fois ». Donc, « Il était une fois » en 2021, Emmanuel Macron décida de réindustrialiser la France. Et pour ce faire, il mit en place une 30aine de stratégies nationales d'accélération industrielle qui concernaient et qui concernent toujours les enjeux majeurs stratégiques sur lesquels il voulait pousser la France. Donc, vous avez cybersécurité, 5G, quantique. Et au milieu, au titre de l'industrie, il y a cette stratégie d'accélération industrie, culturelle et créative. On peut parler du nom, hein, on n'a pas le choix. Et voilà, la stratégie, elle est de 400 millions d'euros. Et toutes les stratégies ont un volet recherche. Donc, quantique a son volet recherche, a son programme. Cybersécurité aussi, intelligence artificielle. Et donc, industrie, culturelle et créative a son programme de recherche, qui a été confié à l'organisme de recherche jugé le plus compétent pour l'opérer. Quantique, c'est le commissariat à l'énergie atomique, et industrie culturelle et créative, c'est le CNRS. Donc, je dis ça pour que vous compreniez bien que c'est la recherche 2.0, c'est-à-dire que ce n'est pas les chercheurs qui sont à l'initiative des thématiques de recherche, c'est l'État qui passe une commande auprès du CNRS qu'on est censé exécuter. Donc, c'est très, très différent. Alors, on a plein de latitudes pour l'exécuter, mais n'empêche, on est tributaire de cette commande de l'État et on rend des comptes en permanence. Alors, la commande de l'État, c'est laquelle ? C'est que, alors, on l'a un peu modifié parce que c'était qu'il fallait faire de la brique numérique pour les positionner au premier rang mondial. Bon, on a dit, c'est pas facile. En fait, la mission qu'on a un peu réécrite, c'est d'accompagner par la recherche les acteurs culturels et créatifs dans leur adaptation et transformation aux enjeux numériques, économiques et sociaux de demain. par la recherche, ça veut dire qu'on est quelque part au service des professionnels, des acteurs culturels et créatifs, et qu'on est là pour répondre aux besoins, à condition évidemment qu'il y ait des enjeux de recherche. Voilà, c'est la seule condition. Voilà, donc c'est le CNRS qui porte. On n'a pas voulu, j'ai pas voulu qu'il y ait d'autres partenaires, justement pour laisser la latitude, parce que si on commençait à mettre une université particulière, un site particulier, ça empêchait les collègues de toute la France de répondre, par exemple, aux appels au projet. Donc, c'est ouvert à tous les chercheurs et enseignants-chercheurs et aux acteurs culturels et créatifs. On est deux en pilotage parce que, sans rentrer dans les détails trop techniques, moi, je m'occupe de tout le volet sciences humaines et sociales. Et mon co-porteur, qui s'appelle David Coeur-Joly, lui, est directeur de recherche en informatique et est chargé du volet recherche informatique et numérique. Donc, on a 25 millions dans ce programme, 20 millions qui est contractualisé, sur lequel on est tranquille, et 5 millions qui se baladent suite au réarbitrage de Bercy. Donc, j'espère qu'on pourra quand même les avoir. Et la durée du programme, elle est de 6 ans. Donc, on a reçu la lettre de mission. C'est pour vous donner une idée des temporalités de l'État. Pourtant, on s'appelle Accélération. On a eu la lettre de mission en mars 2022. On a donc passé une audition, fait 2 fois un document de cadrage. Il y a eu la décision Premier ministre sur notre projet en janvier 24, quand Elisabeth Borne est partie et qu'elle a eu la bonne idée de signer le parapheur qu'elle n'avait pas signé depuis 6 mois. Et on a pu tout contractualiser avec l'Agence nationale de la recherche, qui est notre banque, en fait, au printemps dernier. Et donc, on a commencé vraiment en septembre. Donc, le programme ICAR, il est conçu, il y a 7 projets. Il y en a un qui fonctionne par, vous allez me détester si je dis ça, mais secteur industriel. C'est-à-dire qu'en fait, on a regroupé les domaines des acteurs culturels et créatifs majeurs qui correspondent aussi assez bien aux thématiques scientifiques disciplinaires des chercheurs. Donc, vous avez art visuel, audiovisuel, design et architecture, édition, jeux vidéo, métiers d'art et de mode, musée patrimoine, musique, spectacle vivant, qui est un sous-secteur où il y a évidemment danse, cirque, théâtre, art de la rue, et art de vivre, qui est un secteur qu'on a ajouté, moyennant un peu de négociation, qui comprend gastronomie, œnologie, hospitalité et certaines parties du luxe. Voilà, donc là, c'est un gros réseau, on est 1500 chercheurs, qui travaillons par thématique. À côté, il y a 6 autres projets qui sont des projets thématiques, cette fois-ci pas par secteur, dont le but est de travailler des thématiques qui nous paraissaient importantes. Et d'ailleurs, le ministère de la Culture n'était pas forcément d'accord avec toutes ces thématiques. Créer, diffuser et produire à l'heure de l'intelligence artificielle, toucher les publics, surmonter les crises, bien-être, démocratie, résilience, alternatives culturelles et créatives, les mondes infinis du métavers pour en faire quoi ? Donc ça, c'est sur les expériences immersives, tout le côté économique et juridique. Et conception et usage des univers métaversiques, c'est aussi sur les expériences immersives, mais plutôt sur le côté expérientiel, intelligence artificielle sur des plateformes de haute technologie. Aujourd'hui, donc, vous êtes dans ICAR et vous êtes plus particulièrement dans DESAL, qui est consacré aux alternatives culturelles et créatives. Alors pour finir, le programme, il est basé sur quoi ? Le programme, on l'a conçu pour plein de raisons. Enfin, la raison première, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en réalité, personne ne se parlait. C'est-à-dire que les chercheurs en informatique, ils ne parlent pas aux chercheurs en humanité sociale. Et les chercheurs, ils ne parlent pas aux professionnels. Et les professionnels leur parlent très peu. Donc, toute la stratégie qu'on a bâtie avec David de ce programme, ce n'est pas du tout de faire des résultats scientifiques très compliqués dans des revues. On a dit qu'on aurait réussi le projet dans 6 ans si on arrive à se rencontrer. C'est-à-dire à essayer de trouver un langage commun, à sortir de l'université, et aujourd'hui c'est une preuve parfaite, mais aucun événement d'ICAR n'est autorisé à se tenir dans un espace académique, et à créer les bases d'un premier dialogue qu'on espère aussi fructueux, et que derrière on finance par la suite via les dispositifs du programme. Donc on a 3 principes importants. Le premier, c'est on a mis en place une plateforme qui s'appelle Ariane, qui est un truc assez débile, mais qui, je pense, est utile. Vous êtes professionnel ou vous êtes chercheur, vous rentrez vos coordonnées de travail, votre nom, vos thématiques. Alors nous, on est par mots-clés scientifiques et les professionnels, on les a laissés par mots-clés de secteur. Et vous apparaissez sur une carte. Ça a l'air bête, mais en réalité, personne n'est vraiment cartographié. Même les communautés de recherche sont très mal cartographiées. Donc aujourd'hui, on a une toute petite visibilité sur qui travaille sur quoi en France. Or, on pourrait imaginer que quelqu'un ici a besoin d'une compétence qui n'est pas portée par la recherche sur le territoire. Il n'y a pas toutes les forces de recherche sur un territoire. et grâce à la plateforme peut aller voir un collègue de Marseille parce que lui travaille sur telle partie des métiers d'art ou j'en sais rien. Voilà. L'idée aussi, c'est que ça permet de voir sur un territoire quel pôle territorial se dégage, quelles sont les forces d'un territoire. Pour la faire courte et sans caricaturer, c'est évident que là où il y a des vignes, il y a des communautés de recherche qui travaillent sur le vin, par exemple. Mais ça les fait très bien apparaître sur la plateforme. Donc Ariane, c'est vraiment une pièce importante du dispositif. La deuxième pièce, c'est ce que vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'on a appelé les journées d'accélération. Donc c'est vraiment conçu comme des rencontres. On va en faire 60 par an, donc c'est beaucoup de rencontres. Sur un format totalement libre, des ateliers, des communications en mode, comme on sait faire en scientifique, en mode pupitre, des tables rondes, des entretiens croisés, etc. Et le but, c'est d'arriver avec des grands moments de convivialité aussi, du temps pour ça, pour qu'à la fin de la journée, on puisse se dire, ben, ça, c'est une bonne direction de recherche et pour les professionnels et on va y aller. Voilà, c'est vraiment le but. Alors, je termine par les dispositifs financiers. Donc, l'animation des communautés au moyen des journées d'accélération. On a deux fois par an des appels à petits projets. Alors, ce n'est pas tout à fait deux fois par an, c'est en continu, pendant 4-5 ans, on a 2 millions pour 100 projets à 20 000 euros. Ils sont évalués deux fois par an, une fois à l'automne, une fois au printemps, mais vous pouvez déposer tout le temps sur le site internet. Et l'idée de ces petits projets à 20 000 euros, c'est de ou travailler une thématique entre chercheurs et professionnels. Oui, parfois 20 000 euros, ça suffit pour faire des merveilles, ou amorcer une thématique structurante qu'on pourra déposer via d'autres appels à projets. On n'est pas tout seul à faire de l'appel à projet. Voilà, donc l'idée, c'est d'arriver à créer du lien via aussi ces dispositifs. On a fait la première campagne là, d'évaluation en mars. On en a financé 13, vous pourrez aller voir sur le site. Il y en a énormément qui étaient inéligibles, les communautés de recherche, et on proposait vraiment des sujets de recherche fonda qu'on ne pouvait pas du tout pousser parce que ça n'avait pas de rapport avec le programme tout bêtement. Alors, je ne sais pas s'il y a des entreprises dans la salle, mais ça peut être intéressant aussi. On fait de l'appel à accompagnement, de l'appel à contrat doctoral, c'est-à-dire qu'on finance des thèses. Et il y a des dispositifs avec les entreprises qui s'appellent des chiffres. Et l'intérêt, c'est que c'est du cofinancement et qu'on peut faire deux fois plus de thèses que celles qu'on a prévues. Donc, on sera aussi un peu attentif à financer ce genre de dispositif public-privé, qui n'est pas d'ailleurs toujours public-privé, qui peut être public-public, hein, qui peut être recherche-collectivité, par exemple. Et enfin, on a décidé de mettre en place un appel à accompagnement doctoral. Donc là, c'est du 10 000 euros pour des étudiants qui ne sont pas inscrits chez nous, mais qui sont inscrits dans tout l'écosystème universitaire français. Et qui, on n'y a pas d'argent, en fait, quand on fait une thèse, on n'a même pas de quoi partir en mission. Donc là, l'idée, c'est d'environner leur thèse, de les faire intégrer un réseau et aussi de favoriser leur carrière parce que c'est des éléments qui sont extrêmement structurants, rencontrer des collègues, rencontrer un écosystème, voilà. La seule condition étant l'adéquation avec la stratégie, c'est-à-dire être d'accord avec la lettre de mission que l'État a confiée au CNRS. Voilà, et je laisse la parole à Luc Robin, je te laisse la parole.
Merci Solveig. Je me présente moi aussi. Donc, je suis Luc Robin, je suis professeur à l'Université de Bordeaux, historien comme Solveig. Puis, dans l'autre moitié de ma vie, je suis artiste, je suis guitariste, musicien dans diverses formations de rock depuis 40 ans. Solveig l'a dit, nous, ça fait 12 ans qu'on travaille sur les marges, en fait, sur l'histoire de la contre-culture en France, sur l'histoire de la scène punk, et ça a été très inspirant pour pas mal de choses dans ce projet. Solveig a évoqué les journées d'accélération, le fait de pas tenir les journées d'accélération dans des lieux académiques, mais d'aller rechercher un petit peu des lieux extraordinaires, des lieux qui parlent en termes de culture. On est vraiment au cœur de ça. Moi, je porte au sein de ICAR un projet ciblé, dont l'acronyme est Dédale, mais qui s'appelle en réalité Alternative culturelle et créative. Et je crois que le mot important, tout est important, hein, mais on rentre par l'alternative, en fait, dans les stratégies d'accélération qu'a évoqué Solveig sur le programme de réindustrialisation Accès Culture. Ce projet, il a choisi une option particulière qui est justement l'alternative. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut accélérer les choses, les accompagner, les dynamiser en entrant par la focale de l'alternative, c'est-à-dire de manière de faire autrement, d'aller rechercher aux marges, à la périphérie, ce qui n'est pas visible, ce qui mérite d'être accompagné, aller rechercher des ressources aux marges qui deviendront les moteurs de demain, hein, dans la dynamique culturelle. Voilà, c'est un petit peu le cadre, le principe même de ce projet ciblé, Alternative culturelle et créative. Donc, il y a cette volonté d'identifier des ressources aux marges, les marges étant entendues dans tous les sens du terme possible. Mais le terme alternative est vraiment important et je remercie le couple ce matin d'artistes qui nous a présenté justement une alternative, enfin une double même alternative, une alternative à nos pratiques culinaires habituelles, alimentaires, et une alternative aussi au sens de ce qu'a évoqué Soleil, c'est-à-dire que c'est pas les arts culinaires, la culture culinaire n'est pas immédiatement identifiée comme un secteur par le politique, et donc on est aussi dans l'alternative parce que là, on vient de voir quelque chose qui finalement tord le projet, puisqu'on a décidé, ça fait partie aussi de, ça fait partie de Dédale, d'identifier des activités, des pratiques culturelles qui se situent hors des secteurs identifiés par le politique comme relevant de la culture. Voilà. Donc, un premier volet de ce projet qui est la recherche de ressources aux marges. Et un deuxième volet du projet qui, symétriquement, cherche à identifier les freins, les verrous. Donc, ça nous a aidé à poser un certain nombre de chantiers. Enfin, quand je dis freins et verrous, en tout cas, les choses sur lesquelles on pourrait travailler pour que ça aille mieux, pour libérer, pour ouvrir les énergies. J'en cite, j'ai décidé de faire court, mais je cite quelques chantiers sur lesquels on travaille actuellement. Ben, il y a le chantier des territoires. On a évoqué la question du désenclavement. Moi, je préfère maintenant dire l'ouverture, c'est-à-dire travailler sur des territoires, l'insularité, la ruralité, et regarder un petit peu comment les richesses de ces territoires peuvent être valorisées, comment on peut dynamiser justement ce qui se passe sur les territoires. Donc, on a aujourd'hui une réflexion sur la ruralité comme élément de dynamique des ICC. On travaille beaucoup sur l'insularité. On a un projet en Corse, on a un projet qui démarre sur l'île de la Réunion notamment. Un deuxième chantier, c'est au fond travailler, alors je l'ai évoqué, sur les formes de catégorisation des pratiques culturelles et regarder un petit peu ce qui se passe, comme on vient de le voir ce matin, sur des domaines qui sont moins bien identifiés comme relevant de la culture. Donc ça fait partie des alternatives culturelles et créatives. Un chantier qu'on n'a pas encore mis en œuvre, mais auquel je tiens beaucoup et qui va venir dans les années qui viennent, est la place des femmes dans la création. Voilà. Ça peut paraître évident pour certaines ou certains, ça l'est beaucoup moins en fait. En général, quand on regarde, c'est où sont les femmes dans l'esprit de création, dans la dynamique, dans les postes qui comptent, dans les logiques de création. J'étais assez surpris il n'y a pas très longtemps d'une enquête sur la mode, par exemple, où on disait que finalement, il n'y a quasiment pas de femmes. Les femmes ne sont pas identifiées comme créatrices ou sur des postes de création, ou sur des postes identifiés comme porteurs. Bon, voilà. Donc, on a cette réflexion sur la question du genre, finalement, dans la création. On a aussi une réflexion à gros chantier sur les nouvelles technologies. Quel est l'impact, en particulier l'IA, même si c'est devenu un sujet qui fait parler aujourd'hui. Mais je reviens toujours à cet exemple qui nous a marqué au début de ce travail, qui était sur Bordeaux, un projet de bande dessinée créé avec, sur un gros travail de prompt, mais avec assistance de l'IA, et qui a tout de suite généré un débat assez violent, finalement, l'auteur de BD étant perçu comme un traître à la cause, etc. Donc là, tout d'un coup, on s'est dit, tiens, il y a quelque chose à engager en termes de réflexion sur cette alternative technologique possible. Quelles sont les pistes, quelles sont les promesses, quels sont les freins, quels sont les risques, etc. Donc, bon, une alternative culturelle et créative, Dédale est aussi en charge de cette réflexion. Parce que là, on a du boulot. Voilà, donc je ne vais pas faire très très long. Je voudrais remercier Cédric, le lieu qui nous accueille, évidemment. On est dans un lieu alternatif, atypique, tu l'as dit Cédric. Merci beaucoup pour ton accueil chaleureux. Moi, j'adore le cadre. Merci à Mathilde Regnault pour avoir porté cette journée et avoir structuré vraiment ces débats, les trois tables rondes auxquelles nous allons pouvoir assister, qui sont essentielles. On est quand même sur un territoire qui a vu une petite initiative locale, les Eurocaennes, devenir une ressource nationale, un festival absolument extraordinaire. Et en même temps, aujourd'hui, la question se pose de savoir comment ces festivals peuvent devenir potentiellement des laboratoires de réflexion sur un cadre de contraintes qui fait partie du projet, qui est la transition écologique. C'est-à-dire que accélérer les dynamiques de création, ça ne veut pas dire déraper. Donc, on a quand même une responsabilité énorme sur accélérer sans déraper. Donc, ça veut dire réfléchir symétriquement à cette question de l'écologie, de la transition écologique, de comment on fait culture aujourd'hui sans ruiner le monde dans lequel on vit. Donc, des tables rondes tout à fait extraordinaires et qui vont lancer le débat. La place de la ruralité dans la dynamique de la culture et puis les alternatives possibles, les projets nouveaux. Voilà, donc bienvenue sur ce projet. Je remercie aussi toute l'équipe des ingénieurs d'études et puis Taina et Marion et Hyacinthe qui accompagnent Icar et qui sont présentes aujourd'hui. Et merci pour toute cette aide et pour ce beau projet. Voilà. Et bonne journée d'accélération.
Merci Luc pour le rappel de notre projet.